L'affaire dite Benalla n'a pas encore été complètement élucidée. Il reste beaucoup de questions pour comprendre, par exemple, qui a autorisé le désormais ex-conseiller d'Emmanuel Macron à assister la police dans sa mission musclée du 1er mai, qui l'a couvert et s'il y a vraiment eu dysfonctionnement d'institutions aussi essentielles que l'Élysée, le ministère de l'Intérieur ou la préfecture de police. Alors il y a d'un côté l'affaire Benalla dont la justice s'est saisie et de l'autre ce qu'elle nous dit, cette histoire-là et les réactions qu'elle a suscitées, ce qu'elle nous dit sur l'État, l'exercice du pouvoir ou encore la violence légitime, théorie chère à Max Weber. Bonjour Belir Nabli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, maître de conférences en droit public à l'université Paris-Est Créteil. Après la République identitaire que vous aviez fait paraître aux éditions du Cerf, vous vous penchez cette fois sur la République du soupçon. C'est le titre de votre dernier livre chez ce même éditeur. Et dans un article sur le site de débat chronique, chronique avec un K, que vous avez cofondé, vous écrivez que l'affaire Benalla en est un symbole de cette République du soupçon. Donc on a le temps d'y revenir assez longuement. C'est intéressant de savoir comment le chercheur du temps long que vous êtes, comment vous vivez ce genre de séquence, comment vous en profitez pour consolider ou au contraire nuancer des théories élaborées en plusieurs années. Vous, Belir Nabli, comment avez-vous vécu cette affaire Benalla? Comment la vivez-vous encore? Je veux dire en tant que séquence politique et médiatique, comment fait-elle écho en vous depuis que peut-être vous achetez le journal Le Monde ou que vous allumez votre poste de télévision ou de radio le 18 juillet dernier?
En effet, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que cette affaire symbolise une forme de tournant qu'un certain nombre de chercheurs ont souligné dans le rapport entre les citoyens d'un côté et la question de la transparence d'une part et la question de la tolérance, j'allais dire de la corruption politique en général, d'autre part.
Mais alors dans un premier temps, je voudrais savoir comment vous, en tant que chercheur, vous la vivez. Parce que vous travaillez sur ces questions de République du soupçon, de démocratie exemplaire. C'est quelque chose qui nourrit vos travaux depuis longtemps. Et là, le 18 juillet, une nouvelle affaire tombe. Est-ce que vous vous dites, bon, encore une autre et je vais la suivre de loin et on va voir? Ou est-ce que vraiment ça vous passionne pour votre travail et vos recherches?
Non, non, elle est passionnante, incontestablement. Elle est passionnante parce que c'est surtout, d'abord et avant tout, le symbole de la nature de notre régime politique. Il n'y aurait pas d'affaire Benalla si on n'avait pas un régime qui était concentré finalement autour d'une personne. Ce qu'on appelle le régime présidentialiste qui symbolise précisément la Ve République, et qu'on qualifie parfois aussi de monarchie républicaine, pour une forme d'oxymore, pour souligner cette tension entre d'un côté le modèle républicain hérité de la révolution de 1789 et de l'autre finalement un héritage monarchique avec lequel on n'a pas coupé le cordon ombilical fondamentalement. Et cette tension-là, elle est vécue à travers différentes affaires, mais là elle prend une proportion particulière parce qu'elle vient s'entrechoquer avec une autre thématique qui monte en puissance. Alors on n'en était pas totalement convaincu encore de cette affirmation de la thématique de la transparence. C'est une hypothèse chez les chercheurs. Un certain nombre de signes existent maintenant, notamment des signes formels, des lois sur la moralisation de la vie politique notamment. Mais c'est une hypothèse qui reste à vérifier. Et cette affaire vient précisément vérifier cette tendance-là, notamment dans l'attente, l'exigence de transparence relativement nouvelle dans l'esprit de nos concitoyens. Et donc, elle fera date, cette affaire, notamment sur ce point particulier.
Alors, prenons les choses dans l'ordre. L'affaire Benalla, c'est une conjugaison de plusieurs choses, dites-vous. D'abord, une logique hyper-présidentialiste de l'exercice du pouvoir. En l'occurrence, le Parlement a, au départ, du moins bien fonctionné. Une commission d'enquête parlementaire s'est immédiatement constituée. Bon, elle a éclaté en vol. L'opposition est partie. C'était inévitable.
Eh bien, si je puis me permettre, c'est précisément parce que le Parlement a été absent au début de l'affaire que celle-ci symbolise le caractère hyper centralisé du pouvoir, ce qu'on appelle l'hyper-présidentialisme. Je m'explique, il n'y aurait pas d'affaire Benalla s'il n'y avait pas eu un contre-pouvoir incarné en l'espèce par Le Monde et le fait qu'il ait révélé cette affaire.
Oui, ce ne sont pas les députés qui l'ont révélé, qui ont dit on voit fréquenter, par exemple, Alexandre Benalla avait une carte qui lui ouvrait la porte de l'hémicycle, personne ne l'a jamais vue, personne ne s'en est surpris et personne n'a sorti cette affaire avant le journal Le Monde.
Exactement. A priori, ce ne sont pas des acteurs institutionnels ou des contre-pouvoirs institutionnels qui ont pu actionner et révéler cette affaire. C'est un élément, un organe extra-institutionnel, hors du jeu institutionnel de la Ve République, qui a permis finalement que cette affaire puisse être débattue publiquement. Et donc, à contrario, ça signifie bien que le jeu de nos institutions ne permette pas finalement de non seulement de révéler, mais d'échapper à ce type de scandale. Tout particulièrement, qu'il a fallu finalement l'intervention d'un contre-pouvoir médiatique qui est inhérent à toute démocratie libérale, naturellement, mais il a fallu cette intervention-là pour que, dans un second temps, des contre-pouvoirs institutionnels, les commissions d'enquête parlementaires en particulier, le Sénat également aujourd'hui, qui révèle d'une certaine manière tout son intérêt, puisque on a bien vu que la commission parlementaire de l'Assemblée nationale a été rattrapée par la logique présidentialiste, ou si vous préférez, par la logique de la discipline majoritaire, qui in fine a abouti à sa neutralisation, alors que précisément, comme au Sénat, le président de la République ne dispose pas d'une majorité, eh bien, le Sénat a pu aller, enfin, au jour d'aujourd'hui, en tous les cas, peut aller jusqu'au bout de sa démarche d'enquête parlementaire.
Donc vous avez l'air de dire que le Parlement a quand même été assez effacé jusqu'à présent, alors qu'Emmanuel Macron, lui, parle de coalition baroque des oppositions à qui il a reproché de se substituer à la justice et de devenir un tribunal populaire. Les remarques qu'Emmanuel Macron a formulées à l'encontre du Parlement quand il a décidé de sortir son silence, c'est-à-dire 6 jours après que l'affaire ne soit révélée, ces mots sont assez révélateurs de ce qu'il pense ou pas du fonctionnement parlementaire, des institutions de la Ve République.
J'ai l'impression qu'ils sont révélateurs d'abord d'un déficit sur cette capacité, cette culture du contre-pouvoir. Il a du mal à accepter à la fois le contre-pouvoir médiatique, il a attaqué, rappelons-le quand même, la presse de manière assez frontale et directe, et en même temps l'opposition parlementaire. Donc il y a un problème quant à son rapport à tout ce qui peut incarner à un moment donné une opposition. Un contre-pouvoir, fondamentalement. Donc là, a priori, il y a effectivement quelque chose qui pourrait nous poursuivre tout au long du quinquennat, à savoir, finalement, cette tension d'un pouvoir fort, institutionnellement et politiquement, face à toute contestation.
On sait aussi que ces 2 motions de censure qui ont été déposées par les groupes d'opposition de droite comme de gauche, a priori, n'aboutiront pas, comme ça a été le cas de toutes les motions de censure déposées depuis le début de la 5e, sauf à une, sauf une fois.
Oui. Effectivement, là pour le coup c'est un jeu arithmétique et politique. Pour obtenir une motion de censure, il faut dégager une majorité absolue de près de 289 voix. Or aujourd'hui, ce qui caractérise précisément notre régime politique, c'est non seulement l'existence d'une majorité stable, mais que cette stabilité est fondée sur ce qu'on appelle la discipline. La majorité parlementaire à l'Assemblée nationale est disciplinée au sens où elle se plie, non pas forcément aux injonctions, mais à la ligne définie par l'exécutif en général et par le président de la République en particulier.
Voilà, une ligne, une logique hyper-présidentialiste donc, combinée, écrivez-vous dans votre tribune sur chronique.fr, à l'idée de l'État start-up où les relations personnelles priment sur le reste. Entre parenthèses, je doute que dans une start-up, les relations personnelles priment sur l'intérêt de la boîte, mais en tout cas, vous parlez de quoi en l'occurrence?
En fait, à travers cette formule, c'était une manière de souligner une autre dimension de cette affaire, à savoir que finalement, elle traduit aussi des dysfonctionnements qui s'expliquent par le fait qu'on ne se soit pas plié précisément à ce qui fait notamment notre État très pyramidal, très vertical, avec une hiérarchie à respecter, des procédures à respecter. Et précisément, c'est parce que l'acteur principal de cette affaire, M. Benalla, était hors procédure et en dehors finalement de la hiérarchie formelle, à la fois du système de sécurité internalisé, mais aussi de l'appareil sécuritaire, de l'appareil d'État lui-même, qu'on a eu cette affaire. C'est qu'on ne sait pas très bien où le situer. Et concrètement, si on écoute un peu les témoignages des différents acteurs, y compris ceux qui ont eu affaire, M. Benalla, sur des terrains opérationnels, vous voyez très bien ce que ça a donné. C'est qu'à un moment donné, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire précisément, si ce n'est qu'ils avaient en face d'eux une incarnation du pouvoir suprême sous notre régime, à savoir l'Élysée. Et le simple label Élysée suffisait à imposer finalement sa légitimité supérieure, alors même que, d'un point de vue de l'état de droit, il y avait là, pour le moins, une forme d'approximation sur la nature et l'identité d'une certaine manière, de M. Benalla.
Il y a rupture d'égalité devant la loi pour vous, parce que par ailleurs, on apprend qu'Alexandre Benalla a été embauché de manière totalement conforme au droit, a dit Emmanuel Macron, que ses différentes demandes pour posséder une arme n'ont pas abouti, que s'il avait des insignes de la police, c'est aussi parce qu'on les lui avait donnés deux jours avant dans un sac plastique et qu'il n'a même pas porté le tiers de tout ce qu'on lui apportait, simplement on lui a dit de porter ce brassard pour pas se faire confondre par les policiers sur place. Il n'avait pas les clés de la villa du Touquet, il avait un logement de fonction mais dont il n'avait pas pris possession de 80 mètres carrés et pas 200. En tout cas, au fur et à mesure, peut-être des fantasmes, je ne sais pas, sont un peu tombés qui ont fait aussi tomber cette hypothèse ou pas. D'une rupture d'égalité devant la loi et d'intérêt privé qui primerait aux États, aux intérêts publics.
Alors pourquoi parler de la rupture d'égalité devant la loi dans cette affaire ? Parce que c'est ce qui a notamment suscité la passion autour de cette affaire, à savoir que on est un pays qui entretient une passion pour l'égalité. Et précisément, nos concitoyens ont en partie identifié la part finalement féodale de cette affaire, notamment le fait que des notions comme la fidélité soient mises en avant systématiquement à la fois par l'Élysée mais aussi par Monsieur Benalla. Et la fidélité, ce n'est pas l'état de droit. La fidélité, précisément, ça relève parfois ou ça amène parfois à la possibilité de violer l'état de droit ou non, précisément, de la volonté de protéger un chef charismatique pour précisément sortir de notre modèle de l'état de droit démocratique. Et pourquoi et quel est le lien avec cette affaire ? Ben notamment en évoquant quelques éléments, quelques détails, le fait par exemple qu'on ne s'explique toujours pas à quel titre M. Benalla disposait d'un badge d'accès à l'Assemblée nationale alors qu'il appartient à l'Élysée, qu'il n'exerce pas de fonction politique, mais une fonction qui relève d'une activité de sécurité.
Il lui dit qu'il allait à la salle de sport.
On n'a pas besoin d'un badge qui vous permette d'accéder à l'hémicycle pour faire du sport. A priori, je connais un tout petit peu les couleurs de l'Assemblée, même physiquement, on n'a pas besoin de passer par l'hémicycle pour aller dans une salle de sport. Autre exemple, il a mis en avant à travers ses dernières interviews le fait qu'il n'aurait pas commis d'actes de violence. Les images sont assez manifestes en la matière. Il y a eu des actes de violence assez nets. Or, le fait de recourir à cette violence-là, c'est une manière de privatiser quelque chose de fondamentalement public, de fondamentalement propre à l'État. Et là, on a précisément une transgression de M. Benalla par rapport à ce qui fait l'État, à savoir précisément ce monopole de la violence légitime.
Le monopole de la violence légitime, c'est un concept élaboré par Max Weber. Et là, vous trouvez qu'il prend tout son sens dans ce cas-là. C'est-à-dire que le propos de Max Weber était de dire que l'État a une violence légitime, mais qui est légitime parce que c'est l'État, et que dès lors qu'un individu ou une entité se substitue à l'État sur cette violence, elle n'est plus légitime, elle n'est plus acceptée. Je ne sais pas si j'ai très bien résumé, mais en tout cas...
Non, c'est ça à la fois théoriquement, mais historiquement aussi. C'est-à-dire que l'État moderne, y compris en France, s'est construit à travers cette capacité, à un moment donné, d'un pouvoir à exercer la violence, à la faire accepter contre quelque chose. La sécurité pour tous, pour tous les sujets à l'époque, mais aussi la liberté, dirait d'autres théoriciens. Et cette idée-là, elle n'est pas incarnée que par Max Weber, qui l'a étudiée d'un point de vue sociologique. Vous l'avez en philosophie politique chez Hobbes, qui précisément a théorisé la naissance de l'État moderne à travers cette figure du Léviathan, c'est-à-dire ce souverain, finalement, qui est né d'un contrat entre les individus qui ont accepté d'abandonner leur liberté contre la sécurité. Et toute la question aujourd'hui, c'est de savoir précisément quel est le point d'équilibre dans ce contrat-là. Et pour revenir à l'affaire Benalla, par rapport à ce qu'incarne l'État comme monopole de la violence légitime, il ne s'agit pas d'une violence absolue. Il s'agit premièrement de pouvoir recourir à la violence par une personne habilitée par l'État. Et c'est en cela qu'on comprend mieux les réactions d'institutions comme la police judiciaire ou par la gendarmerie, qui, elles, pour le coup, sont les détentrices de cette légitimité-là pour exercer la violence légitime au nom de l'État.
On pourrait en débattre d'ailleurs, mais ce n'est pas le propos. Mais en tout cas, dans les faits, dans la théorie, c'est le cas.
Mais pour rebondir à ce que vous aviez à l'esprit, ce recours à la violence légitime est encadré. Il n'est pas ou il n'a pas à être exercé de manière absolue ou irresponsable. Il doit s'inscrire dans ce qu'on appelle notre état de droit. Il y a des règles à respecter et c'est l'un des enjeux de cette affaire.
Mais ça pose aussi la question de à qui obéit la police ? Est-ce qu'elle obéit aux intérêts de la nation ou est-ce qu'elle doit faire la police de l'État ? Puisque quand le secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police, interrogé par Le Monde sur l'affaire Benalla, répond « quand l'Élysée demande, on exécute ».
C'est une forme de déviance qui est nourrie par la nature du régime et non pas par les règles prescrites par notre état de droit. C'est parce que précisément les agents de l'État, y compris les agents de l'appareil de sécurité, ont intégré la culture de la Ve République, à savoir que le pouvoir suprême est concentré dans les mains d'un homme et que ce pouvoir suprême est concentré à l'Élysée, que symboliquement, il y a une intégration culturelle, même dans la culture administrative, que tout ce qui vient de l'Élysée est légitime.
Mais d'ailleurs, Alexandre Benalla lui-même parle de phénomène de cour dans les différents entretiens qu'il a donnés. Quand Le Monde lui dit « Vous avez 25 ans et vous vous retrouvez à donner des ordres à des policiers expérimentés », il répond « Tout à l'Élysée est basé sur ce qu'on peut vous prêter de proximité avec le chef de l'État, donc dans la police aussi ».
C'est encore une fois le problème. C'est finalement la dimension symbolique, la question de la représentation du pouvoir qui prend le dessus sur les règles et les procédures à respecter dans un État démocratique digne de ce nom.
Voilà, et d'ailleurs, trois hauts gradés de la police ont été mis en examen car suspectés d'avoir contacté Alexandre Benalla le jour des révélations du Monde, le 18 juillet, pour lui transmettre les images de vidéosurveillance et donc, on peut se poser la question, préparer peut-être sa défense. Bernabli, il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas ou tout ce qu'on a mis beaucoup de temps à apprendre. Ce silence de l'Élysée pendant 6 jours, est-ce qu'il vous a surpris, sachant que vous écrivez dans votre livre, vous décrivez vous-même ce réflexe qui consiste habituellement à surréagir au scandale prestement et mécaniquement par des lois animées par des discours moralisateurs. Donc peut-être que vous estimez qu'il s'est donné le temps de la réflexion et que c'était peut-être pas plus mal ou pas ?
Alors, de la réflexion, je ne sais pas. De la définition d'une stratégie de communication, j'en suis à peu près persuadé.
Et quel c'est mot de bonne on loi. Va employer
c'est ça. Et c'est de bonne aloi que le pouvoir essaie de s'extirper de la tyrannie de l'urgence médiatique en particulier. Bon, ça s'entend et ça ne saurait constituer en soi une critique par rapport à l'attitude de l'Élysée dans cette affaire. Il n'empêche, on peut aussi analyser finalement le résultat de cette mise en œuvre de la stratégie de communication de l'Élysée. Et là, pour le coup, on ne peut pas dire que le temps qui a été pris est abouti à quelque chose de relativement efficace. Il y a eu quand même des couacs dans la communication de l'Élysée, des contradictions manifestes, y compris entre les déclarations du porte-parole de l'Élysée, M. Bruno Roger Petit, d'un côté, et de l'autre, un certain nombre d'auditions entendues dans le cadre des commissions parlementaires. Et ces contradictions-là, elles sont pour le moins gênantes.
Voilà, une enquête est en cours pour déterminer la nature et le cadre institutionnel de la mission qu'Alexandre Benalla assumait au nom de l'État en collaboration avec les forces de sécurité. Je reprends les termes de la commission d'enquête. Mais d'ores et déjà, quel impact sur ce que vous appeliez déjà la République du soupçon dans votre ouvrage rédigé il y a quelques mois, Béliard Nabli? Eh bien, on vous retrouve pour en parler après le journal de 8h. Vous restez avec nous.
Merci.